Aujourd'hui, on va parler du Christ. Je suis Cédric Watine, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Oui, on va parler du Christ et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que avec Adélie, tu sais, on est toujours à la recherche de nouvelles choses sur le management et on est tombé sur un truc qui nous a intrigués. On est tombé sur un livre qui s'appelle « Et si le Christ était notre PDG ?» Alors tu me diras, c'est peut-être pas les dernières idées à la mode. Le Christ, ça date un petit peu, ça fait un petit moment qu'il est passé parmi nous. Mais voilà, donc ça nous a intéressé, ça nous a fait rire déjà que quelqu'un écrive un bouquin avec ce titre-là. Et puis après, quand on a lu le bouquin, on a trouvé ça vraiment intéressant et on a eu envie de le partager avec vous, managers et chefs d'entreprise. Et vous allez voir qu'il y a plein de pépites, plein de trucs à apprendre qui vont être hyper, hyper intéressants. Donc, on a invité sur le podcast Antoine Rager. On dit Rager ?
On dit Rager, tout à fait.
On dit Rager, qui est l'auteur de ce livre « Et si le Christ était notre PDG ?» Donc, bonjour Antoine, bienvenue sur le podcast Outils du Manager.
Bonjour Cédric.
Je suis hyper content de te recevoir. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ton bouquin. J'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui résonnaient avec ce qu'on dit sur le podcast et plus. Donc, je suis très, très content que tu aies accepté l'invitation. En général, on commence par une petite présentation simplement juste pour savoir qui tu es. Et puis après, je te demanderai c'est quoi ton message ? Qu'est-ce qui te porte un petit peu dans ta vie professionnelle ou personnelle ? Mais commençons d'abord par... qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Très bien. Bah écoute, Cédric, je m'appelle Antoine Rager. J'habite en Vendée. Je suis formateur en management depuis 4 ans. Donc, j'accompagne environ 200 managers par an pour les aider à développer leurs compétences humaines et relationnelles pour qu'ils puissent gérer efficacement leur équipe. Et je suis aussi donc, l'auteur du livre « Et si le Christ était notre PDG » qui est paru le 10 mars 2023, et qui cumule déjà plus de 1200 ventes. Donc, c'est un livre qui marche bien.
Donc, apparemment, ça intéresse les gens. C'est génial. Juste avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, c'est quoi le message que tu portes, en fait? Qu'est-ce qui te fait avancer? Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait? Quelle est l'idée qui t'a donné envie d'abord d'écrire peut-être ce livre ou bien d'accompagner des managers?
Oui. Alors, premier point, c'est que aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que un bon manager, il va être attendu davantage sur ses compétences humaines et relationnelles, plus que c'est sur ses compétences purement techniques. Et ça, c'est un petit peu un changement de paradigme à la fois dans le processus de sélection des managers, alors que ça peut être dans différents secteurs, mais je vais plus intervenir dans le secteur du public ou dans le secteur de l'expertise comptable, où en fait, on va sélectionner un manager parce que c'est un super collaborateur, il a des très bons résultats, de très bonnes performances. Mais en fait, ce qu'on attend du manager, c'est plus que ça, c'est plus qu'être un excellent collaborateur, c'est sa capacité à fédérer son équipe, à poser des bons objectifs, à faire du feedback pour que les collaborateurs puissent progresser, à maintenir leur motivation dans le temps, à gérer les conflits. Moi, mon objectif, c'est justement que les managers qui sont très bons techniquement essayent de développer cette partie humaine et relationnelle, qui prennent conscience de son importance dans l'exercice de leur fonction de management et voilà, qui puissent le travailler à travers des modules de formation assez courts pour travailler ces points-là.
Ok, génial, c'est bien, on a le même objectif, donc normalement on devrait se rejoindre sur pas mal de points. On va parler du livre, bien sûr. Avant, j'avais envie de te demander, toi, est-ce que tu as été manager toi-même ou est-ce que ton expérience est plutôt de l'accompagnement de management?
Ouais, j'ai fait un petit peu d'encadrement, que ce soit sur la gestion de projet quand j'étais étudiant ou quand j'ai travaillé dans le salariat, j'ai eu des stagiaires encadrés, mais j'ai en effet davantage d'expérience sur la question de l'accompagnement et du management que sur ma pratique du management moi-même. D'ailleurs, voilà, j'avais cette réflexion sur des formations qui peuvent être un peu, voilà, c'est ma vie, mon œuvre que je partage. C'est vrai que moi, j'ai une approche un peu plus pragmatique, outil, benchmark aussi de ce qui peut se faire dans les différentes entreprises. Et c'est là où je pense que j'ai ma valeur ajoutée dans ce que je partage à mes managers.
Ouais, ok. Juste, avant qu'on commence vraiment à prendre le livre chapitre par chapitre. Comment tu mesures en fait le succès des managers que tu accompagnes ou le succès de l'accompagnement?
Oui. Alors, donc généralement, je vais prendre la formation que je fais le plus souvent. C'est une formation en 3 jours sur le management d'équipe. On va étaler ces 3 jours en 3 fois une journée. Et moi, j'attends mes managers sur, à la fin de chaque journée, qu'ils se dressent un plan d'action de ce qui va être réalisé. Donc, généralement, je suis pas très ambitieux. Je leur demande de mettre en place un ou deux outils de ce qu'on a vu à la formation, mais que au moins ils le mettent concrètement en place. Ouais. Alors, on en reparlera, mais l'un des outils phares, c'est notamment mettre en place l'entretien bilatéral, c'est-à-dire un entretien de 30 minutes par au moins une fois par mois avec l'ensemble de leurs collaborateurs. Alors souvent, au début, ils me disent « Non, mais attendez, c'est n'importe quoi. 30 minutes avec tous les collaborateurs, j'aurai jamais le temps. » Et en fait, je leur dis, c'est un format court qui vous permet de traiter l'ensemble des thématiques de management, c'est-à-dire à la fois l'avancée sur les objectifs, le relationnel qu'il peut y avoir avec les collaborateurs, le point sur pour faire du feedback. Et au contraire, c'est-à-dire que quand on a peu de temps pour faire du management, c'est presque l'outil miracle parce que ça permet de condenser toutes les différentes fonctions sur un aspect court. Donc moi, voilà, ce que je mesure, c'est effectivement, vous êtes engagé sur ce plan d'action-là. À la fin des 3 journées de formation, qu'est-ce qui a été vraiment mis en place? Et donc, je les attends sur ces outils-là. Et quand j'ai la possibilité, ça dépend de mes clients, mais j'aime bien faire aussi un point de suivi individuel 3 mois après la dernière journée de formation pour, pareil, faire ce retour sur cette feuille de route, sur ce plan d'action qu'ils ont mis en œuvre. Pour que on ne fasse pas retomber le soufflet, c'est l'un des risques qu'on fait de la formation. Ouais. On sort de la formation, on se dit c'est génial, on a plein d'outils. Et finalement, ce qui nous compte, nous, c'est vraiment les outils, les pratiques qu'ils ont mises en œuvre.
Et tu vois, l'outil dont tu parles, que tu appelles l'entretien bilatéral, on en parle aussi souvent sur le podcast, on appelle ça le 1-1. Et nous, on préconise une fois par semaine, tu vois, donc on leur demande. On est à barre encore plus haut parce que. Si tu veux, on se dit. Enfin, mon expérience, c'est que si tu le fais pas une fois par semaine, en fait, et que tu le fais une fois par mois, il est plus long. Du coup, il devient plus long parce qu'il y a beaucoup de sujets qui se sont accumulés. Et puis quelquefois, il saute. Donc, quand il saute et que c'est une fois par mois, du coup, ça devient 2 mois et ça fait beaucoup.
Oui.
Tu vois. Mais sur l'outil, je te rejoins complètement. C'est pour moi la pierre angulaire du management, cet entretien.
Oui. Et après, je le distingue un peu du point opérationnel parce que il y en a qui disent oui, sur le travail, on discute à la machine à café, etc. Oui, d'accord, mais il y a le point opérationnel et là le point justement sur on fait le feedback, comment ça se passe au niveau de l'équipe, où est-ce que tu en es de l'atteinte des objectifs plus globaux qu'on s'est fixés. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien que les managers ils comprennent cette différence-là aussi et l'importance du coup d'avoir ce temps-là individuel.
Et on est complètement d'accord sur le fait que le risque, quand on le fait effectivement toutes les semaines, il se transforme en soit un entretien de flicage quand le manager n'est pas bon, ou effectivement soit un entretien presse de travail, en tout cas de relevé de compteur, si on respecte pas, si on fait pas par ailleurs un relevé de compteur. Compteur collectif ou individuel. Donc, je te rejoins complètement sur le sujet et aussi sur la mesure. C'est très difficile, je suis d'accord, très difficile de mesurer le management, surtout quand on n'a pas de méthode. Quand on a une méthode et qu'on a des outils, ça devient plus facile. Est-ce qu'on applique les outils? Oui, non. C'est quand même quelque chose qui est plus facile à mesurer. Donc, on est carrément en phase. OK.
On est sur les objectifs SMART, dont tu parles aussi dans ton podcast.
Tout à fait, ouais. OK, super. Est-ce qu'on attaque le livre? Parce que je pense que ça, c'est ce qui va intéresser aussi. Ça peut paraître assez... en tout cas, je trouve que c'est assez courageux, je le dis quand même, d'introduire cette notion... religieuse, alors c'est pas forcément l'objet, mais dans la pratique du management, et assez ambitieux aussi, je trouve. Et ce qui m'a vraiment intéressé quand j'ai lu le bouquin, c'est les valeurs que ça dégage, en fait, finalement, dans le positionnement du manager. Donc, si tu es prêt, on commence. Oui. Le premier chapitre, la première partie, ça s'appelle servir, Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, peut-être, l'idée centrale du chapitre? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu mets servir? Et puis, peut-être nous donner quelques points clés. Et puis, voilà, si j'ai des questions, j'hésiterai pas.
Parfait. Alors, si tu veux, Cédric, je voudrais juste revenir sur pourquoi j'ai écrit ce livre avant. Et puis, effectivement, après, je pourrais développer ce premier point. En fait, donc moi, quand j'ai commencé à faire des formations sur le management, je me suis rendu compte que le contenu même de mes formations, on était beaucoup sur des valeurs, des compétences humaines relationnelles. Alors, je parlais de faire confiance, d'être dans l'écoute, dans l'empathie. On parlait de droit à l'erreur, par exemple. Et en fait, je me suis rendu compte que toutes ces notions-là, elles existaient aussi, alors dans les évangiles, dans ce que pouvait dire le Christ. Et alors avec des mots différents, voilà, le Christ il parle d'amour du prochain, il parle de pardon. Et je me suis dit, en fait, je suis sûr qu'il y a des choses à creuser dans ces sujets-là. Alors, la question, est-ce qu'on est sur un livre religieux? Moi, je le fais lire à des religieux et des non-religieux, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'analyse de l'évangile, qu'est-ce qu'a dit le Christ dans ce qui est relaté de sa vie. Après, chacun a sa foi ou pas, mais ça, on peut le lire même si on ne croit pas du tout dans Jésus-Christ. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'aller creuser ces parallèles entre ce que le Christ prône et partage dans les évangiles et ce que derrière, moi, j'ai pu dire aussi dans les formations management. Et c'est cette convergence-là qui m'a amené à faire ce livre. Et donc sur le premier point, effectivement,
c'est aussi ce que je me suis, ce que je me dis, c'est que au-delà du fait qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi en Jésus-Christ, de toute façon, les évangiles ont imprégné énormément notre culture, notre éducation, nos réflexes, et finalement, voilà, ça, même si vous n'êtes pas du tout convaincu qu'il existe. Vous allez voir, ça va complètement résonner parce que culturellement, de toute façon, ça résonne dans tout le monde occidental et voire plus. Donc, oui. Je suis d'accord. Moi, c'était ça. Je me suis dit, mais sur quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Est-ce que le type, c'est un peu un illuminé ou est-ce que c'est... voilà, c'est très intriguant et je trouve l'angle hyper intéressant, quoi. Je suis presque déçu de pas y avoir pensé avant toi, tu vois.
Ah bon, bah écoute, ça. J'ai pensé au podcast, donc voilà, c'est
ah, voilà, c'est ça. Merci okay. D'avoir donc, donné. Premier chapitre, servir.
Oui, voilà. Donc premier point, servir. Alors il y a plusieurs passages dans les évangiles qui m'ont intrigué par rapport à cette question-là. Déjà le Christ dit « Moi je suis venu sur terre, le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi mais pour servir ». Donc ça c'est un premier point et ensuite un peu plus loin il va dire « Que celui d'entre vous qui veut être le premier parmi vous soit d'abord votre serviteur ». Et en fait, ces deux phrases qui résument bien un peu la philosophie que le Christ veut inculquer à ceux qui veulent être chefs, à ceux qui veulent avoir des responsabilités, à ceux qui veulent avoir des commandes, c'est celui qui est aux commandes, c'est pas celui qui a une petite armée à son service qui va tranquillement exécuter les ordres du supérieur hiérarchique. Mais le chef, le manager, celui qui a la responsabilité, son rôle, c'est servir ses collaborateurs pour que finalement ils aient les moyens d'accomplir leur mission. Donc ça, c'est un premier changement de paradigme important à l'époque du Christ parce que faut se dire qu'on est à l'époque de l'Empire romain et l'Empire romain, c'est la structure verticale très hiérarchisée et on obéit aux ordres du supérieur hiérarchique. Et ce que dit le Christ à cette époque-là, c'est totalement révolutionnaire. Alors aujourd'hui, ça s'est un peu diffusé cette posture du ce qu'on appelle du leader serviteur ou du leader coach, ouais. Celui qui se met au service de ses collaborateurs. Donc j'en parle dans le livre avec des effets qui sont tout à fait positifs. Hein. Il y a des études qui ont été menées sur le sujet, c'est-à-dire que quand on se met soi-même au service de ses collaborateurs, on a des collaborateurs qui sont du coup plus satisfaits et mieux au service de leurs clients. Donc ça fait une sorte de cercle vertueux. Qui est aussi impertinent d'un point de vue de la stratégie d'entreprise parce que si on veut améliorer le service client en final, en améliorant le service interne, on a un impact positif là-dessus. Et du coup, qui est aussi humainement une vision qui est totalement intéressante.
Oui, c'est incroyable d'ailleurs ce parallèle que tu fais, parce que c'est un renversement qu'on connaît aujourd'hui, enfin ça fait déjà quelques dizaines d'années, mais qu'on connaît de plus en plus dans les entreprises. C'est marrant le parallèle entre l'Empire romain qui était vertical et chain of command top-down et ce que tu dis. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, je ne sais plus dans quel bouquin, il y a une pyramide qui est inversée comme ça, où il y a l'ancienne
entreprise. Il est dans mon bouquin, alors, mais il doit l'avoir dans d'autres. Oui,
en fait, tu as le top management en haut et je crois qu'en bas, ce sont les clients.
Oui, c'est ça.
C'est un bouquin, je crois qu'il y a un bouquin anglo-saxon qui s'appelle « Employee First ».
Ouais.
Où ils disent qu'il faut mettre les employés en premier, parce que si toute l'entreprise est au service des employés, alors les employés seront mieux au service des clients, en fait, finalement. C'est ça le,
ouais, voilà, c'est ça.
C'est le raisonnement. Alors, j'ai une question juste par rapport à ça, c'est que je souscris totalement. Juste, j'ai envie de juste... Alors, c'est pas un bémol que je veux mettre, mais juste un piège dans lequel je pense qu'il faut pas tomber quand on dit... je suis là pour servir mes collaborateurs. Est-ce que, en disant ça, tu n'ouvres pas la porte à ce qu'on appelle la délégation inversée c'est-à-dire, dès qu'un de tes collaborateurs évoque un problème, justement, un à un, tu vas prendre le problème. C'est-à-dire que, moi c'est l'observation qu'on en a, puis voilà, on le voit assez souvent, c'est qu'on se retrouve à la fin avec des managers, en fait, qui font le job de leurs collaborateurs, qui sont... qui ont pris cette habitude, parce qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on se dit, tiens, c'est super, ça marche, je peux donner du boulot à mon patron, et finalement, c'est le patron qui se retrouve en burn-out, enfin, le manager qui se retrouve en burn-out, et les collaborateurs qui se retrouvent un petit peu presque dessaisis de leurs responsabilités, finalement.
Oui. Effectivement, dans le fait de servir, c'est pas faire à la place d'eux. Hein, ouais. C'est donner les moyens à son collaborateur pour qu'il puisse réaliser. Ça peut être aussi parfois montrer l'exemple pour qu'ensuite les autres puissent se reproduire, mais on en reparlera un peu plus loin dans le livre. Il y a une vraie objectif ensuite de délégation. Le Christ sait qu'il est là pendant un temps sur terre, mais que derrière il va falloir que les disciples ils prennent le relais pour pouvoir aussi poursuivre sa mission. Et c'est tout le sens, alors pour ceux qui connaissent un peu les évangiles, là, de la scène où il lave les pieds, donc c'est juste avant sa passion, hein. Il va laver les pieds de ses disciples, et il leur dit, bon voilà, maintenant, je vous ai lavé les pieds, maintenant, à vous d'aller laver les pieds des autres, c'est-à-dire vous mettre au service des autres personnes que vous allez rencontrer. Et vous voyez, il dit ça juste avant d'être crucifié, donc c'est pas pour faire à la place d'eux, c'est pour que justement les autres, ils puissent le faire en autonomie.
Ok, super. Ok. On passe à la deuxième partie.
Ouais.
Établir des règles justes.
Oui. Tu veux que je développe, du coup, établir des règles justes, ouais.
J'ai pas de questions à ce stade.
Non, mais alors.
Je souscris, mais vas-y.
Oui, c'est alors ce qu'on met derrière, enfin ce que j'ai voulu exprimer derrière, c'est Jésus, il arrive dans une époque où la religion qui est dominante, c'est la religion juive, et vous avez un certain nombre de règles qu'il faut respecter dans cette religion-là, et si on les décompte à l'époque, vous en avez 613 qu'on appelle mitzvot, donc avec des choses qu'il faut faire, et puis des interdits, en fait, le Christ va parfois avoir des discussions assez virulentes avec les pharisiens, donc les pharisiens qui sont des garants de la loi, qui enseignent ce qui est permis et ce qui est défendu. Et en fait, le Christ va parfois pointer du doigt certaines incohérences ou contradictions du fait qu'il y a tellement de lois que parfois il y en a certaines qui viennent en contradiction l'une par rapport à l'autre. Donc l'exemple qu'il donne, c'est vous avez le jour du sabbat. Donc le jour du sabbat, normalement, on n'a pas le droit de travailler chez les juifs. Et il dit, bon, y a une personne là qui est malade, qui a besoin que j'aille au puits pour lui donner à boire et pour lui venir en aide. Est-ce qu'il m'est permis de faire ça le jour du sabbat? Et effectivement, les pharisiens, ils sont un petit peu embêtés parce qu'à la fois, bah, le bon sens, c'est de dire bah, je vais l'aider, cette pauvre personne, parce que c'est là où se situe le bien et la charité. Et en même temps, ils ont cette loi qui leur dit bah, non, on n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat. Et donc, le Christ, dans son enseignement, veut amener le peuple juif à dire bah, la loi que vous avez reçue, c'est une loi qui est bonne, qu'il faut garder parce que les principes sont intéressants. Par contre, il faut faire preuve d'intelligence finalement dans l'application de ces règles. Et bon, il y a cette phrase, je pense qu'elle est dans la culture populaire, c'est l'homme n'a pas été fait pour le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Enfin, le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour sabbat. Donc, dans le sens de se dire que les règles qui nous structurent, elles sont là pour nous guider, mais on doit rester intelligent par rapport à ces règles, et on sera d'autant plus intelligent qu'on comprend le sens qu'il y a derrière. Et ce que le Christ a dit, parce que on l'avait interrogé aussi sur les 10 commandements, hein, les 10 commandements qui avaient été repartagés par Moïse, et leur dit, mais en fait, tous ces 10 commandements, ils sont reliés à la même valeur centrale, c'est aimez-vous les uns les autres. Aime mieux ton prochain. Et en fait, c'est vrai que quand on y pense, tu honoreras ton supérieur hiérarchique, tu honoreras tes parents. Bah oui, si tu aimes tes parents, bah tu cherches à les honorer. Tu ne voleras pas ton prochain. Bah oui, si tu aimes ton prochain, t'as pas envie de lui piquer le fruit de ton travail. Et en fait, il met cette valeur-là centrale dans toute la loi juive. Et en fait, c'est ça qui doit nous servir de paramètre pour discerner. Et on peut relier ça ensuite aux valeurs des entreprises. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre de procédures et un certain nombre de règles qui m'aident à décliner la stratégie d'entreprise. Mais derrière, j'ai mes valeurs. C'est l'excellence, c'est la rapidité, c'est le souci de la satisfaction client, etc. Et en fait, il faut que mes règles elles soient toujours connectées à cette valeur-là. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème.
C'est un petit peu toujours revenir au premier principe, en fait. C'est-à-dire se dire, oui, il y a des procédures, oui, il y a des processus. Maintenant, tu as un client qui n'est pas satisfait, le processus ne convient pas à la situation que tu es en train de vivre. Surtout, tu oublies le processus et tu reviens au premier principe qui est peut-être dans les valeurs d'entreprise, la satisfaction client, par exemple, à tout prix. Et donc, dans ce cas-là, oui, quelquefois, il faut aller au-dessus du processus. Et je te rejoins assez, en fait, ça parle un petit peu de la culture d'entreprise, en fait.
Oui, bah c'est ça. C'est quel est l'objectif ? Donc, pour moi, il faut quand même des règles et des procédures. C'est-à-dire que, je prends un cas de la vie de tous les jours, il faut des limitations de vitesse sur la route. Mais si on a notre femme qui est enceinte et qui est sur le point d'accoucher, bon, bah, on comprend très bien qu'on puisse aller au-dessus 90 km/h pour aller le plus vite possible à l'hôpital et puis permettre que l'accouchement se passe bien. Ça, je pense que tous les gendarmes, même, on le voit dans les films, ils escortent parce qu'on est dans l'esprit de la règle.
Ouais, puis on a ça dans l'entreprise. C'est-à-dire que, alors justement, il y a, je sais pas si tu entends, il y a une ambulance qui est en train de
oui,
passer.
Oui, une petite sirène. Ouais,
elle est passée, voilà. Et il y a aussi les règles qui sont nécessaires dans l'entreprise. Elles servent aussi à gérer le cas standard, le 80%. Si on n'a pas de règles pour gérer 80% de ce qui se passe dans l'entreprise, on est tout le temps en train de réinventer l'eau chaude et en fait on n'avance pas.
C'est ça.
Donc il y a ce principe-là aussi. Ok, super.
Et donc c'est pour ça que c'est une phrase aussi que le Christ dit : je ne suis pas venu pour abolir la loi juive, mais pour l'accomplir. Donc voilà, et on n'est pas là pour renverser la table et dire que les règles sont mauvaises, mais l'accomplir, donc les rendre plus parfaites.
Et plus on challenge les valeurs et les règles, puis on est capable de faire évoluer leur application. C'est-à-dire, je le dis souvent, moi, avoir une valeur générique comme, par exemple, la bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et là, on peut rattacher ça à des comportements clés qui vont nous aider justement à définir ce que c'est que la bienveillance. Ce que je t'ai demandé de faire quand on a parlé de la première partie, ou quand tu m'as dit bah, « servir », ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire faire le boulot de nos collaborateurs
tout à fait.
À leur place, non, parce que servir, c'est soumis à un objectif qui est long terme, et donc servir, ça veut dire mettre en situation de, ça veut pas dire, ou en tout cas accompagner la transformation du collaborateur. Alors, la partie 3, c'est un mot qu'on a souvent du mal à prononcer en management, c'est juste le mot aimer. Qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu penses qu'on peut parler d'amour dans l'entreprise?
Alors, en fait, les Grecs, ils ont trois mots pour parler d'amour, tu sais.
Ouais.
Non. Donc, ils ont la philiae. Donc, philiae, c'est l'amour amical. Il y a l'eros, donc l'amour plus charnel, le désir. Et ils ont l'agapé. L'agapé qui est une sorte d'altruisme, d'amour fraternel, de considération de l'autre. Et en fait, si on revient à l'écriture grecque des évangiles, le « aimez-vous les uns les autres », c'est « agapé », en fait. C'est dans le sens « porter une attention fraternelle à chacun d'entre vous ». Et donc, en fait, voilà, par « aimer les uns les autres », c'est « prenez soin des uns des autres »,« écoutez-vous les uns les autres »,« aidez-vous les uns les autres ». Et ce que je développe dans le premier point, c'est intéressez-vous aux gens qui travaillent pour vous. Ça, c'est je pense que c'est une première façon d'aimer, c'est de montrer la considération et puis de l'écoute. Il y a un entrepreneur américain qui a basé toute sa culture d'entreprise là-dessus, qui s'appelle Gary Vaynerchuk, où il avait mis justement. Une personne qui s'appelait la Chief Love Officer, donc c'était une personne qui était spécifiquement chargée de garder cette connexion en fait individuelle entre la tête de l'entreprise, le manager et les besoins des collaborateurs, parce que forcément, quand on est dans une entreprise de 30 personnes, on peut encore connaître les besoins et les attentions de chacun, mais quand on arrive à 200, ça peut devenir plus compliqué. Mmh. Et lui avait vraiment cette volonté de se dire, bon, individuellement, je sais que mon manager s'intéresse à moi, il sait ce que j'attends, il sait ce dont j'ai besoin. Moi aussi, je m'intéresse à mon manager, je pense que ça, c'est quelque chose qui va dans les deux sens. Mais aimer, c'est déjà ça. C'est tout simplement s'intéresser aux gens, sincèrement.
Et sincèrement, et en plus, en étant conscient que c'est ce qui marche le mieux. Je dis souvent, hein, une équipe qui s'entend bien, ça vaut tous les logiciels de gestion de projet du monde. Tu peux avoir le meilleur logiciel de gestion de projet, toutes les techniques de gestion de projet, si les gens ne s'entendent pas entre eux, tu auras de moins bonnes performances qu'une équipe qui a zéro, qui est pas très bien organisée, qui a pas le bon logiciel de gestion de projet ou qui sait pas l'utiliser. Par contre, où on s'entend et où on a de la bienveillance et où on se complète et où il n'y a pas de guerre d'ego, etc., etc. C'est évident. Et je pense qu'on a du mal à le dire en général, que les entreprises les plus performantes, c'est aussi souvent les entreprises où les gens s'entendent entre eux, se respectent et s'aiment, en fait, finalement. Et un manager, moi, je pense que il doit aimer ses collaborateurs. Ça ne veut pas dire que c'est ses potes et qu'il va avoir envie de passer tous ses loisirs avec eux, mais les aimer dans le sens professionnel du terme, c'est-à-dire apprécier leur qualité, leur comportement, etc., etc.
Oui, c'est ça.
Après, ce chapitre-là, il peut évoquer des questions. Par exemple, comment on fait pour maintenir le bon équilibre entre l'empathie qu'on peut avoir pour un collaborateur et une prise de décision un peu ferme qu'on doit prendre, y compris celle de se séparer, par exemple, de son collaborateur, ou de lui refuser un congé, ou de le sanctionner. Comment on gère ça, en fait?
Alors, il y a peut-être deux éléments de réponse que je vais apporter sur ce sujet. Alors, le premier, c'est que il y a l'amour qu'on peut porter individuellement à chacun. Et puis après, il y a aussi la recherche du bien commun. C'est-à-dire que dans le cas d'un collaborateur qui est peut-être pas performant ou pas à la bonne place dans l'entreprise, parce que c'est pas toujours que la faute du collaborateur s'il n'est pas performant, ça peut être qu'on l'a mis à un poste où ses compétences ou ses qualités ne peuvent pas être exprimées. Derrière, potentiellement, ça peut être l'équipe qui en pâtit. Donc, si je ne prends pas cette décision, quelque part, je fais peut-être pas un acte d'amour envers les autres membres de l'équipe qui sont en train de faire qui rattrapent le boulot de celui-là qui ne fait pas son job. Mm-hmm. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion aussi de recherche du, du bien commun et qui rend, par exemple, une procédure dans licenciement légitime ou un feedback peut-être un peu difficile, mais qui soit légitime. Et j'enchaîne sur ce deuxième point, c'est-à-dire, on parle le mot bienveillance qui est souvent utilisé, mais bienveillance, ça ne veut pas dire que tout va bien. Alors, il y a plusieurs étymologies, mais moi j'aime bien l'étymologie qu'on utilise en italien ou en anglais. Il parle de benevolence en anglais, benevolenza en italien, et qui veut dire vouloir le bien. Et en fait, je crois qu'on a le mot bénévolence en France, mais je crois que ça ne s'utilise pas beaucoup. Quand on comprend bienveillance en je veux le bien de, vouloir le bien de, c'est aussi parfois lui dire la vérité. Et pour son bien, c'est mieux qu'il exprime ses talents dans une autre entreprise ou dans une autre équipe. Et vouloir le bien de l'équipe, c'est aussi parfois prendre cette décision-là qui peut peut-être paraître difficile, mais qui cherche le bien de l'équipe.
Et aussi, par rapport au mot bienveillance, c'est quelquefois le refuge du manager qui manque de courage pour dire vraiment ce qu'il pense à son collaborateur. Et ça, c'est pas de la bienveillance. C'est plutôt un manque de courage. C'est-à-dire que quelquefois, pour faire progresser quelqu'un, je dis même pas quelquefois, toujours, pour faire progresser quelqu'un, il faut lui dire ce qui va pas. Et c'est de la bienveillance, finalement. Quand tu fais un feedback négatif à quelqu'un, c'est parce que tu es en train de lui dire, je suis en train de te faire un feedback négatif parce que j'ai confiance en toi, parce que je sais que tu peux l'entendre. Et surtout, j'ai confiance dans ta capacité à évoluer dans l'avenir. Et je m'attarde pas sur ce que tu as fait dans le passé. Je suis en train de te dire que, très certainement, tu vas pouvoir faire mieux à l'avenir. Et donc ça, c'est de la bienveillance. C'est pas toujours perçu comme ça, mais c'est de la bienveillance. Et c'est dur à faire. Moi, je pense que le feedback le plus difficile à faire, c'est celui-là, pas celui qui dit « Non, mais tout va bien, c'est génial, continue, quoi. »
C'est ça. On en reviendra plus tard, mais c'est vrai. Les techniques aussi pour faire du feedback ou factuel qui permettent que ça rend la chose moins difficile. Mais effectivement, ça nécessite toujours du courage.
Alors, je reste sur le thème d'aimer.
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans ce mot-là ? Donc j'ai compris, hein, tu m'as dit, en fait, tu peux devoir faire quelque chose avoir à faire quelque chose de désagréable vis-à-vis d'un collaborateur parce que tu aimes l'équipe et donc tu le fais pour le bien de l'équipe. Mais alors, sur quel principe tu te fondes ? Quand il s'agit d'être compétitif contre une autre entreprise, donc parce qu'à l'intérieur de ton entreprise, tu peux décider effectivement qu'il n'y ait pas de compétition parce que tu penses que c'est pas le meilleur facteur de motivation. En revanche, quand on affronte une autre entreprise sur le marché, les règles sont pas les mêmes. Et là, que devient l'idée d'aimer d'une manière générale.
Oui. Oui, alors c'est toujours un point qui peut être difficile. Effectivement, si on est dans une course à l'échalote et que quelque part l'autre entreprise vous fait travailler 10 heures de plus, donc vous aussi vous avez travaillé 10 heures de plus par semaine, etc., on peut arriver à une tension qui fait que ça devient compliqué. Il y a probablement des différences entre une grande entreprise du CAC 40 et si je prends un boulanger par exemple qui a son équipe, il peut fixer dans une certaine mesure le niveau de pression qu'il veut donner, c'est-à-dire que si lui il veut se payer 15 000 euros par mois pour s'acheter sa Mercedes, il a peut-être besoin de mettre plus la pression sur ses équipes et les faire bosser davantage qu'au contraire s'il se met dans une logique qu'est-ce qui va permettre à chacun de vivre durablement dans l'équipe et préserver une harmonie dans l'entreprise et trouver des objectifs de chiffre d'affaires et des niveaux de rémunération qui permettent à chacun d'avoir une perspective qui soit durable. Ouais. Alors voilà, donc c'est vrai que ça peut être parfois difficile dans des points qui sont des entreprises qui peuvent être très compétitives.
Mais je crois d'ailleurs que t'en parles, je pense que tu en parles à un moment, peut-être plus loin, où tu évoques aussi le fait, bah d'ailleurs t'en as parlé tout à l'heure, en disant ce qui compte, c'est pas forcément que l'entreprise soit la plus compétitive maintenant, et c'est souvent c'est ça qui met la pression, plus que l'atteinte d'un certain niveau d'objectif, c'est l'atteinte d'un certain niveau d'objectif immédiatement, sans penser à l'avenir. Parce que le boulanger dont tu parles, en fait, peut-être qu'il va réussir à se faire payer 15 000 et avoir sa Mercedes, sauf qu'il risque de perdre ses collaborateurs ou de les mener au burn-out, et que finalement, ça ne fera pas du bien à son entreprise à l'avenir. Dès que tu remets en perspective les objectifs, ça te permet en général justement d'avoir une pression saine, mais pas d'avoir une pression qui soit destructrice pour tes collaborateurs.
C'est ça, bah c'est le je crois que c'est le sujet du livre de Simon Sinek qui s'appelle Infinite Game, justement. Oui. Voilà, il compare justement le jeu fini, le jeu infini, et dans le jeu infini, notre objectif, c'est de rester le plus longtemps dans le jeu.
Tout à fait.
Et justement, on se fixe des objectifs qui permettent de maintenir notre capacité à jouer sur le long terme.
Tout à fait, d'être toujours vivant le lendemain et infiniment. Ouais.
Exactement.
Ok. Ok, merci pour ça. Alors après, la partie suivante, c'est, je pense que le sujet est plus facile que celui de l'amour, c'est faire grandir.
Oui. Bah, faire grandir, j'en ai parlé un petit peu quand on a évoqué servir, mais le Christ sait que son passage sur terre, il va être limité. Mmh. Et donc, il arrive déjà sur Terre avec cet objectif d'avoir des disciples qui vont le suivre et qui vont être ensuite capables d'agir en son nom et déjà d'annoncer la bonne nouvelle. Et puis même, on voit des passages où il donne ce qu'on appelle voilà, pouvoir contre les esprits, pour chasser les esprits impurs, etc. Enfin, il arrive avec cette volonté de se dire, mon temps sur Terre, même si... dans la liturgie, il est toujours présent, mais mon temps sur Terre, en tout cas, est limité, et il me faut ensuite avoir des personnes qui vont prendre mon relais, déjà pour annoncer mon message, et puis aussi pour agir selon ce que j'ai pu apporter. Bon. Et donc, alors, il y a plusieurs points que j'ai développés dans ce passage-là. Il y a un point donc, qui a trait à la délégation, mais que j'ai déjà développé, mais aussi sur le rapport à l'erreur. C'est-à-dire que vous avez, alors je pense que c'est un passage aussi qui est connu dans la culture populaire, ce qui s'appelle la brebis égarée, où vous avez un berger qui a 100 brebis, il y en a une qui part, et en fait le berger il laisse les 99 brebis qui sont restées dans le rang pour aller chercher la brebis égarée, et quand il retrouve cette brebis égarée, c'est la joie, on a retrouvé la brebis égarée, on a retrouvé la brebis égarée. Et ensuite, le Christ dit, je vous le dis, il y a plus de joie quand on retrouve une brebis égarée et qu'on la remène dans le rang que quand on a 99 personnes qui restent là et qui ne bougent pas leur tête, qui ne font pas d'erreur. Et je pense que c'est important d'avoir ça en tête quand on fait le management. C'est-à-dire que quand on ne fait pas d'erreur, c'est peut-être qu'on ne fait rien, oui. Qu'on ne prend pas d'initiative. Alors, on reviendra après, si tu veux, sur... les différences entre l'erreur et la faute, mais l'erreur c'est entre guillemets j'ai tenté quelque chose, j'ai pas fait comme il fallait parce que j'avais peut-être pas toutes les informations, parce que j'ai voulu innover, ça veut dire que je dois quand même rattraper mon erreur et qu'on doit mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre la mission. Mais si je suis dans une posture de management où j'interdis toute erreur, derrière, après, les gens ils vont arrêter de prendre l'initiative, ils vont arrêter d'innover, et peut-être que le résultat, c'est qu'on aura une équipe qui ne va pas progresser, qui ne va pas prendre l'initiative. Donc, c'est vraiment un questionnement à avoir.
En général, le droit à l'erreur, le manager se le donne, et il le donne moins à ses collaborateurs. Parce que celui qui n'a jamais fait d'erreur jette la première pierre, on pourrait...
C'est ça, c'est aussi dans les évangiles, voilà.
Et puis l'autre chose, c'est qu'effectivement, l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Que ce soit à un niveau individuel, on n'apprend jamais aussi bien qu'en corrigeant nos erreurs, mais aussi à un niveau de société, c'est-à-dire d'entreprise, de groupe humain. Comme tu le dis, je ne fais pas d'erreur, c'est-à-dire que je n'explore pas, en fait, finalement. Mm. et la brebis qui s'éloigne du chemin, elle est en train d'explorer, peut-être que bon, elle va se planter 10 fois, mais peut-être que la 11e fois, elle va trouver un pâturage qui est plus vert et sur lequel
sur lequel
on pourra aller. Alors, c'est quoi la différence justement entre une erreur et une faute?
Alors, une faute, c'est on sait qu'on doit faire comme ça, on nous a déjà expliqué qu'on devait faire comme ça, et on s'obstine à ne pas faire comme ça. Et donc ça, c'est un autre passage des évangiles où Jésus dit « Le sort de Capharnaüm sera pire de ce que celui de Sodome et Gomorre. » Donc Sodome et Gomorre, c'est des cités qui ont été incendiées dans l'Ancien Testament, parce que Capharnaüm, lui, a reçu la bonne nouvelle, a vu le Christ arriver, et eux ne se sont pas convertis.
Okay.
Donc, il est plus sévère avec les gens, c'est normal, on est plus sévère avec des personnes qui savent la bonne réponse, qui ont déjà fait l'erreur, qui savent comment il faut faire et puis qui persistent dans l'erreur,
oui,
que avec des gens qui du coup font l'erreur pour la première fois, qui ne savaient pas, et donc c'est là où de toute façon dans le vocabulaire on distingue aussi l'erreur et la faute. Faute, c'est on savait qu'il fallait pas faire ça, on l'a fait quand même, et donc c'est caractérisé, c'est une faute.
C'est la conscience en fait d'avoir fait une erreur, mais
oui,
en conscience, en se disant bon allez j'y vais. Et pareil, si je vais à l'encontre. Alors, est-ce qu'aller à l'encontre des valeurs qu'on a définies pour l'entreprise, c'est une faute ou une erreur? Ça dépend du niveau de compréhension de la personne qui a fait la faute ou l'erreur, en fait, finalement.
Oui, c'est ça. Mm. En fait, il y a 3 points, ça, c'est dans le catholicisme, mais je pense qu'on peut reprendre ça. Pour faire un péché, il faut que ce soit grave, il faut qu'on ait conscience que c'est grave, et il faut faire quelque chose de grave librement.
Okay.
Mais je pense qu'on peut prendre un petit peu les 3 points sur la faute. C'est-à-dire, faut savoir que c'est quelque chose de grave, avoir conscience que c'est grave, et puis le faire délibérément. Parce que l'employé à qui on a mis la pression pour trafiquer les notes de frais ou pour falsifier les factures, est-ce que c'est vraiment lui qui a fait la faute? Ou est-ce qu'il était totalement libre en fait, de faire ça? Ou est-ce que c'est plutôt son supérieur qui l'a poussé à faire ça?
Il y a aussi une dimension d'en faire grandir. Il y a une dimension de... Alors peut-être t'en parles plus loin, je sais pas. Je voudrais pas. Il y a la dimension de je peux manager, pas parce que je sais mieux que l'autre, mais parce que je me suis attribué la mission de manager. Et parce que moi je vois beaucoup de... C'est un des grands pièges quand on se retrouve en position de manager. C'est que ce qui nous a amené en position de manager, c'est, t'en parlais en introduction, c'est d'avoir très bien réussi en tant qu'opérationnel. Par exemple, je suis super bon vendeur, je viens directeur commercial. Et là, la tentation, c'est de dire, ouais, mais pour garder ma place, il faut que je sois toujours le meilleur vendeur de l'équipe, parce que sinon, je ne suis plus légitime. Et en faisant ça, en fait, tu limites tes collaborateurs, finalement. Et tu loupes complètement ta mission de manager qui est de faire grandir. Puisque tu veux bien qu'ils grandissent, mais pas au-dessus de tes compétences à toi. Comment on peut gérer ça quand on est manager dans une entreprise? C'est-à-dire que ça, je trouve que c'est assez facile de le faire quand tu es le boss, quand tu es le propriétaire d'entreprise ou vraiment l'actionnaire principal, parce que quelque part, ça te donne une autre légitimité. Quand tu es le directeur commercial... Et que tu as un petit jeune qui commence à mieux vendre que toi, à mieux tenir les clients, etc. Je trouve que faut quand même avoir du recul pour le pousser, l'encourager et même l'aider à devenir meilleur encore.
Ouais. Alors là, ce que tu me dis, moi, ça m'interroge aussi sur parfois les processus d'évaluation de la performance des managers. C'est-à-dire que moi, ce que je constate... Alors, j'ai pu le constater dans le public, par exemple, c'est-à-dire qu'on a des managers qui ont à la fois une responsabilité opérationnelle, ils ont des objectifs opérationnels à atteindre, et donc ça peut être, tu dois faire 1 million de ventes par an, et ils ont en plus leur fonction de management. Et en fait, ils sont confrontés au fait que ce qu'ils font en management, et ce qu'ils devraient le faire le plus, c'est pas observable, c'est pas mesurable, et donc en fait, ils sont pas récompensés là-dessus. Et ce que va regarder leur N+1 finalement au moment de l'entretien annuel, c'est combien ils ont fait de ventes.
Eux.
eux, voilà, c'est ça. Et en fait, ça, déjà, ça amène vraiment la réflexion de dans ce qu'on attend, ce que le N plus 1 attend des managers, ou ce que le directeur attend de ses managers, c'est quoi? Est-ce que effectivement, est-ce qu'on continue à leur fixer des objectifs individuels, opérationnels? Est-ce que on les évalue sur certaines compétences relationnelles, sachant que attention, c'est si on fait ça, il faut aussi savoir bien évaluer une compétence relationnelle. Moi, j'en ai beaucoup ils évaluent l'engagement, mais l'engagement, c'est quoi? C'est il arrive avant tout le monde, il repart après tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'engagement? Donc là aussi, il y a un danger. J'avais un confrère avec qui j'avais discuté de ça, et du coup, quand on rentre là-dedans, il faut vraiment se poser la question de quel est le critère observable qui va mesurer ce savoir-être. Ça peut être, est-ce que tu mets bien en place tes entretiens bilatéraux? Est-ce que tu les suis? Est-ce que tu fais au moins un feedback par mois à tes collaborateurs via cet entretien bilatéral? Et donc là, peut-être, si on change ce paradigme d'évaluation, c'est dire, moi, en tant que manager, ce que mon N plus 1 va valoriser, c'est justement ma capacité à avoir fait progresser mon équipe, ma capacité à avoir fait augmenter les résultats individuels de chacun de mes collaborateurs, et pas ma capacité à avoir maintenu mon portefeuille. Bah, peut-être qu'effectivement, ça change ensuite les comportements qu'on voit.
Ouais, je suis
Toujours une question
d'accord.
d'incitation aussi. Voilà.
Et je suis d'accord aussi que, bon, déjà, un point majeur, c'est de mesurer la performance collective, mais c'est aussi important de mesurer la performance individuelle parce qu'on voit comment la performance collective est répartie. C'est-à-dire que si c'est le manager effectivement qui fait tout le résultat, pour moi c'est pas un bon manager, mais si c'est un des membres de l'équipe qui fait tout le résultat, c'est pas un bon manager non plus parce qu'il est en train de créer une diva dans son équipe et un jour ou l'autre il y aura un problème dans son équipe. Donc je suis d'accord, hein, c'est un peu complexe quoi, hein, de l'évaluation de la capacité à manager, ça s'arrête pas. Est-ce que les résultats sont là? C'est
Mais du coup,
la
ça
réponse.
redécoule, voilà, parce que, ouais. Non, mais c'est notre
Effectivement.
conclusion, c'est que si tu, c'est de ça que découlent ensuite les comportements.
Absolument. Absolument. OK. Donc ça, c'était pour faire grandir. Après, le cinquième point, c'est entreprendre. Donc, je savais pas qu'il y avait quelque chose sur l'entreprise, dans les évangiles, mais.
Ouais, ça sort un petit peu, hein. Alors, même en plus des prérogatives parfois du manager, parce qu'on n'attend pas toujours
Aussi, ouais.
un esprit d'entrepreneuriat du manager. Mais bon, vu que c'est le CRIS PDG, bah, quand on pense PDG, on a aussi quand même parfois l'esprit, on doit avoir l'esprit d'entrepreneuriat hein, quand on dirige l'entreprise. Alors, y a plusieurs choses que j'ai voulu creuser ou qui m'ont interpellé. Par rapport aux évangiles. Premier point, c'est l'aspect passage à l'acte, passage en pratique. Le Christ dit dans une de ses paraboles que celui qui écoute ce que je dis et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui aurait construit sa maison sur du sable. Et je pense que ça nous parle, enfin, moi formateur, toi aussi, dans les accompagnements, c'est-à-dire que quand on accompagne un manager, quand on lui apporte des outils, bah, c'est bien, mais en fait, suffit pas de dire que c'est bien. C'est en mettant en pratique qu'on consolide cette connaissance, qu'on la perfectionne et puis qu'on bâtit ses fondations solides, son roc. Parce que sinon, bah, bon, voilà, on écoute le podcast, on dit ouais, ça a l'air cool les outils, et puis finalement, on met pas en œuvre et 1 mois, 2 mois après, c'est terminé.
On est
Donc,
d'accord.
c'est tout un chapitre justement où c'est une sorte d'ode au sens pratique, au fait de ne pas rester sur la théorie et de tester sur il y a un questionnement aussi sur l'expérimentation. Et là, je parle notamment de toutes les nouvelles tendances qu'il y a que ce soit dans l'agilité ou dans la construction des startups où on parle d'avoir ce qu'on appelle un produit minimum viable plutôt qu'une solution qui est complète. Donc un produit minimum viable, c'est quelque chose qui est fonctionnel, qui est pas parfait, qui fait le travail et qui va servir ensuite de base à nos itérations et à l'amélioration. Mmh. Et ce qu'on a comme recul aujourd'hui avec les startups qui se lancent, c'est qu'il vaut mieux des entrepreneurs qui se lancent sur un produit minimum viable rapidement et qui testent leur marché pour pouvoir itérer et l'améliorer, plutôt que des entrepreneurs qui font des super business plans pendant un an, deux ans, qui conçoivent leur maquette, etc. Et puis en fait, au bout de deux ans, ils se rendent compte que le marché, c'est pas ce qu'ils attendaient.
C'est aussi le principe du fail fast, c'est-à-dire tu fais ton produit, s'il marche pas, c'est pas grave, c'était juste t'as juste été un prototype, donc tu peux itérer, ouais. C'est-à-dire qu'est-ce qui a pas marché, et donc je modifie tel paramètre, etc. Plutôt que t'en rendre compte une fois que t'as dépensé tout le budget, quoi.
C'est dommage, c'est pas de bol.
Ouais. C'est marrant la parabole je sais pas si c'est une parabole dont tu parles, j'aurais plus mis aussi sur l'exemplarité en disant parce que d'ailleurs la définition de l'exemplarité pour un manager est pas évidente. Souvent c'est ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est faut absolument que je sois celui qui travaille le plus, qui arrive le premier, qui parte le dernier, etc. Pour moi c'est pas la bonne définition. Mmh. C'est plutôt effectivement de pratiquer ce qu'on prêche, hein, l'exemplarité. Oui. À son niveau, c'est-à-dire je fais pas à la place de mes collaborateurs, je ne travaille pas plus que mes collaborateurs, au contraire, je leur montre qu'on peut réussir sans faire des heures machin, parce que je les aime et que j'ai pas envie qu'ils tombent dans ce piège-là. Il y a peut-être aussi cet aspect-là. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur l'esprit d'entreprise ou entreprendre? Est-ce qu'il y a d'autres choses?
Alors après, voilà, il y a d'autres passages qui sont intéressants. Il y a un passage alors qui nous dit si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous seriez capable de dire à cet arbre déracine-toi et va te jeter dans la mer. Ça c'est un autre passage des Évangiles où en fait le Christ soutient que avec de la volonté et de la conviction, alors c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais on peut être capable de faire des choses qui sont grandes, mais je pense qu'on retrouve ça, alors on avait parlé tout à l'heure de Simon Sinek, mais avec cette question du sens et de cette volonté, ça peut être ça ce moteur, quand on comprend vraiment ce qu'on attend de nous, une phrase de Nietzsche qui disait quoi, celui qui a un bon pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Ouais. Et c'est ça en fait, c'est de se dire quand on a ce sens qui est bien ancré en nous, finalement on est capable de faire plus que ce qu'on pense. Donc ça c'était une parabole aussi un passage que j'ai développé. Et l'autre passage que j'ai développé dans ce chapitre, c'est par rapport au fait de résister aux tempêtes. Donc on sait que l'entrepreneuriat c'est pas un long fleuve tranquille. Et on a un passage où justement on a Pierre, l'apôtre Pierre qui se retrouve dans la mer, et puis vous avez une tempête qui se met à passer et il pense qu'il va tomber, et puis Jésus lui dit pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et puis en fait effectivement c'est des appels comme ça à se dire, même quand on croit que c'est désespéré, on doit continuer à y croire. Et puis c'est ça aussi qui est dans l'entrepreneuriat, c'est cette capacité à endurer les tempêtes et voir ce qui peut être faisable et ce qui est encore possible d'envisager, même dans les situations qui nous paraissent difficiles.
C'est clair que c'est la marque des grands patrons et des grands managers, ça. Garder le cap dans la tempête et déplacer des montagnes parce qu'on y croit, parce qu'on y croit, parce qu'on y croit. On a plein d'exemples. Hein. Et en général, d'ailleurs... dans les médias, c'est souvent ça qui est mis en avant. Chez les grands patrons, c'est ça qui excite les gens. C'est ça qui...
Oui, voilà. Je ne sais plus, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps Frédéric Mazella, là, qui est de BlaBlaCar. Il a mis 4 ans à gérer de l'argent de BlaBlaCar. 4 ans où il n'y avait pas de chiffre d'affaires, quasiment rien. Donc, c'est vrai qu'il faut, là, il faut être bien accroché. Il faut se dire, allez, je crois vraiment à mon projet. Et puis, au final, ça a marché.
Si le boss ne croit pas dans son projet, il n'y a aucune chance que
oui, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe.
Qui va faire confiance si le boss n'y croit pas? OK. La sixième partie, elle est plus, s'y attendait de plus, on va dire, elle s'appelle rester humble.
Oui. L'humilité, qui est quelque chose qui est assez présent dans l'histoire du Christ, et puis peut-être aussi dans la liturgie, là, plutôt liée à la religion, c'est, c'est le Fils de Dieu qui se fait petit enfant. Et bon, il y a cette notion de ce quelque chose de très grand qui se fait humble, qui se fait petit, et donc qui nous amène après à la question un peu de l'humilité comme étant une qualité du chef, de celui qui veut prendre encore la place la plus importante. Donc, j'ai développé trois points sur ce sujet-là. Le premier point, c'est avoir conscience de ses forces et ses faiblesses. Et je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un manager qui pense être bon partout, et donc du coup qui peut-être potentiellement veut mettre son nez dans chacune des tâches qu'il supervise. Et alors, encore les tâches où il est bon, c'est pas trop grave parce qu'effectivement la performance est au rendez-vous. Mais quand il veut gérer les tâches sur lesquelles il est moins performant, là c'est plus problématique. Donc
c'est ultra destructeur même dans une équipe épouvantable. Et personne n'est personne ne. Enfin, les gens ne se font pas d'illusions là-dessus. Ils en parlent entre eux. Et c'est d'autant plus incompréhensible que c'est beaucoup plus confortable quand on a une bonne équipe de dire non mais là les gars, moi j'y connais rien. Vous allez m'expliquer comment vous allez faire. C'est une position tellement facile que c'est incompréhensible que, enfin, c'est dur à comprendre qu'un manager puisse se faire enfermer comme ça. Et je pense que c'est juste une mauvaise analyse, effectivement, de lui-même, en fait. Une mauvaise conscience de ses points forts et de ses points faibles.
Voilà. Donc, bon là, on est tout à fait d'accord sur ce point. Et donc, de cette analyse-là, ensuite, en découle la posture. Le deuxième point, c'est, bon, on a parlé sur l'erreur, mais être capable aussi d'admettre ses propres erreurs. Ça, c'est encore un proverbe populaire maintenant, mais tu regardes, tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, mais tu ne vois pas la poutre qu'il y a dans la tienne. Mmh. Voilà, je pense que quand on veut faire un feedback correctif à quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on est tous parfaits, hein, même en tant que manager. On peut faire un feedback à quelqu'un sans être parfait sur tous les points, mais dans le feedback qu'on va faire, c'est la méthode que je propose dans le livre, c'est OK, d'abord je fais l'introspection de dans quoi j'ai été défaillant. Est-ce que peut-être que les consignes que j'ai données à mon collaborateur n'étaient pas suffisamment claires, peut-être que j'ai peut-être pas été assez présent pour lui fournir les ressources qu'il allait lui permettre d'avoir la mission, peut-être que j'ai choisi le mauvais collaborateur parce qu'il n'avait pas les compétences pour réussir sa mission et je m'en suis pas rendu compte au bon moment. Et en fait, une fois qu'on a fait cette analyse là, après, on est légitime à dire, là, sur ce point-là, t'as peut-être pas été suffisamment proactif, t'as peut-être pas été assez attentif à ce point qui devait être livré à telle date, et là, t'as laissé passer, donc ça t'a mis en retard sur telle livraison d'un autre projet. Voilà, donc ça, c'est le deuxième point. Et puis après, une troisième partie. Oui, vas-y, Cyril.
Juste sur le feedback, ouais, effectivement. D'ailleurs, c'est un point qu'on a rarement évoqué sur le podcast, donc je te remercie pour l'avoir soulevé. C'est effectivement, il y a une première analyse à faire qui est, parce que quand il y a une erreur, quand il y a une sous-performance, quand il y a ça, c'est jamais une personne toute seule, c'est plusieurs personnes et c'est collectif. Et effectivement, il faut faire cette analyse, je suis d'accord avec toi. Et ensuite, faire un feedback, ça ne veut pas dire « je peux te faire un feedback parce que je suis meilleur que toi ». Ça veut juste dire je te fais un feedback d'abord parce que c'est mon job de te faire un feedback et que si je te fais pas de feedback, en fait, je vais pas être capable de t'aider. Et ensuite, ce qui justifie, au-delà du fait que ce soit mon job, c'est aussi que j'ai du recul, peut-être un petit peu plus, et que c'est toujours plus facile de voir, je dirais, les manquements ou les erreurs de quelqu'un d'autre que les siens propres. En tout cas, ça ne donne pas, enfin, le fait de faire un feedback, ça est pas un signe de supériorité par rapport à son collaborateur sur la compétence qui est mise en cause. Ça c'est sûr et c'est vrai.
Oui.
Et c'est vrai que j'en parle pas souvent sur le podcast, mais voilà, un feedback, c'est pas dire à la personne, t'as fait cette erreur et t'es tout seul à l'avoir faite. C'est, tu as fait ça, voilà l'impact sur la performance de l'entreprise ou sur l'entreprise en fait, en tout cas. Et donc, qu'est-ce que tu peux modifier à l'avenir pour que ça ne se reproduise pas ou que ça se passe autrement?
Oui. Le meilleur exemple, c'est le football. C'est-à-dire que il n'y a aucun joueur, le coach de Kylian Mbappé, par exemple, ou de Léo Messi, Bon, bah, ok, le gars, il est meilleur, il est bien meilleur que l'entraîneur, mais pour autant, il a quand même besoin d'avoir une oreille et quelqu'un qui va le tirer encore vers le haut s'il veut progresser, s'il veut continuer à avoir ses performances. Et l'entraîneur, il est légitime à lui donner ça parce qu'il a cet œil extérieur et c'est pas parce que lui n'est pas capable de faire ce que fait Kylian Mbappé qu'il n'a pas des choses à lui dire.
Tout à fait, et en fait, c'est presque le fait de faire le feedback qui te rend légitime parce que tu le fais de la bonne manière. Ce qui est totalement pas le cas quand on fait des critiques, des reproches, ou que ce qui n'est pas la même chose qu'un feedback. Et puis je rappelle aussi que du feedback, on en fait du négatif et du positif quand même.
Et du positif.
Ouais, tout à fait. Ok. Il y avait encore un point sur l'humilité, tu disais ?
Oui, non, mais voilà. Après, il y avait un chapitre sur les puces où on parle des biais cognitifs. Donc ça, je pense que c'est intéressant de l'avoir dans la boîte à outils de du manager.
Ok.
Donc bon, je traite notamment le fait de se méfier des apparences. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de halo, se dire bon, ben, allez, il est bien sapé, il parle bien, donc ça va être un super commercial. Et on tombe assez facilement là-dedans. Et là où le Christ était fort aussi à l'époque, c'est qu'effectivement, il allait voir tout le monde, peu importe que ce soit des prostituées, que ce soit des voleurs, etc., sans avoir forcément cet a priori. Et il combattait parfois. Donc, les pharisiens, notamment, lui reprochaient d'être un. Il disait qu'il était un mangeur et un buveur. C'est-à-dire que le Christ, partageait les repas. Il pouvait aussi boire sur les tablés avec les convives. Et donc, il disait non, mais parce qu'il fait ça, ça ne peut pas être un saint homme. Voilà. Donc, le Christ nous amène aussi à réfléchir sur ce sujet-là.
La partie suivante, la septième partie, ça s'appelle inspirer.
Oui, inspirer. Donc, là, je vais faire un peu d'histoire, mais c'est de se dire combien il y a d'exemples dans l'histoire de l'humanité où on a déjà autant de personnes qui ont pu être mobilisées autour de cette figure du Christ. Il y a aujourd'hui plus de 2 milliards de chrétiens. Et surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est chez les premiers chrétiens, les martyrs qu'il y a pu y avoir. Donc, c'est-à-dire avoir un message tellement fort, tellement puissant, que les gens sont prêts à donner leur vie pour ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut donner sa vie pour son manager, son entreprise, hein, pas de mépris sur ce sujet. Mais voilà, ce qui m'a questionné, c'est cette capacité-là, effectivement, à donner un message qui soit si puissant que les gens vont se mettre en mouvement. Alors, le premier point que j'ai développé, c'est la différence entre une mission et un objectif.
Oui.
Un objectif, c'est quantifiable, c'est « Allez, aujourd'hui, je vais marcher 10 000 pas. À la fin de la journée, je peux mesurer est-ce que j'ai marché 10 000 pas, j'en ai marché plus, j'en ai marché moins. Mais donc, c'est quelque chose qui a une fin et qui, après, devient caduque. La mission, ce qui est très fort avec ça, c'est que c'est inépuisable. Et je prends, par exemple, la mission, je parlais de Blablacar, mission de Blablacar, c'est optimiser les transports des citoyens. Alors, maintenant, ils ne sont plus en France, mais ils sont aussi en Europe, on va dire des citoyens français. Je veux dire, même si un jour ils arrivaient à remplir toutes les voitures qui existent sur le parc automobile français, le lendemain il faudrait toujours le faire. Donc c'est une source finalement de motivation et d'objectif qui est inépuisable. Et en fait, les objectifs vont venir se découler de cette grande mission-là. Je veux optimiser le transport. Enfin, c'est ce qu'il disait dans cette interview, c'est je veux remplir les voitures et puis faire gagner de l'argent aux conducteurs. Mais remplir les voitures, c'était son premier objectif. Et cet objectif de remplir les voitures, cette mission de remplir les voitures, elle a un nombre d'objectifs qui va être... qu'on va pouvoir définir à volonté.
Ce qui est inspirant, donc, c'est la mission.
C'est un premier point, oui. Et alors, moi, le parallèle que je fais avec le Christ, c'est pour obtenir la vie éternelle ou le royaume des cieux, il ne nous dit pas tu vas dire trois fois bonjour à ta voisine ou tu vas donner un bout de pain à ton voisin. c'est pas des choses qui sont définies. C'est-à-dire qu'il y a toujours des efforts à faire et toujours des choses qu'on peut réaliser pour atteindre cette mission-là, pour faire le bien et puis potentiellement obtenir cette vie éternelle qui te promet.
Ok, donc c'est la mission qui inspire ou c'est la personne qui porte la mission, si on revient au management.
Oui.
Tu vois, quand je te pose la question parce que souvent, moi je rencontre... Bon, tu sais, ce qu'on propose chez Outils du Manager, c'est un peu une méthode. C'est tu fais T1-1, tu fais de feedback, tu utilises tel outil, tel outil, tel outil. Et ça convient à un certain type de manager, à la plupart. Mais quand on commence à parler d'inspiration, c'est-à-dire de dire, et en plus, il faut qu'à travers ces outils, tu inspires tes collaborateurs, il y a beaucoup de personnes qui sont beaucoup moins à l'aise, qui se sentent beaucoup moins capables, en fait, justement, d'inspirer. Je pense parce qu'elles ont l'image des grands visionnaires comme Steve Jobs ou, tu vois, tous ces gens-là dont on parle dans les médias, etc. Et elles se disent, mais moi, j'ai pas le même charisme, j'ai pas le même impact sur les gens, donc comment je peux inspirer ? Parce que je te rejoins, je veux dire, nos collaborateurs, puis même nous, on a besoin d'être inspirés. Parce que c'est ce dont on parlait dans la partie d'avant, c'est que quand ça commence à souffler et que c'est la tempête, etc., si on ne peut pas se raccrocher justement à quelque chose de plus grand, c'est très facile de dire bon, finalement, je m'en fous, je vais faire autrement. Ce qui nous permet d'aller plus loin, c'est justement la manière dont on a été inspiré. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un manager justement qui a cette difficulté, qui ne voit pas bien comment lui ou elle va être capable d'inspirer les actions de personnes, même quand elle ne sera pas là, les gens vont continuer à travailler de la meilleure manière possible. Tu sais, l'idée de dire le bon management, il se voit quand le manager est absent.
Oui.
Alors, je ne fais pas de parallèle avec le Christ, mais quand même, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu sur Terre, et pourtant, il y a quand même pas mal de personnes qui continuent
à transpirer. C'est vrai, c'est vrai. Ben, j'aurais peut-être envie de poursuivre le parallèle que j'ai fait entre objectif et mission, c'est-à-dire peut-être pour un manager qui ne sait pas... qui n'est pas très à l'aise avec cette notion de mission, peut-être qu'il repart des objectifs qu'on lui fixe. Avoir un taux de rebut de moins de 3% des unités produites, avoir un taux de satisfaction de plus de 95%. Bon, allez, on prend ces indicateurs-là, c'est les objectifs que je me suis fixé. Et à peut-être remonter à partir de ça, qui est le quoi, remonter un cran au-dessus. C'est pourquoi on me demande de faire ça. Et en fait, ça, c'est un exercice que je fais aussi en formation. Et pour aussi montrer que les objectifs entre les différents services, ils doivent être alignés. Parce que on a parlé des commerciaux tout à l'heure, mais quand on compartimente, il se trouve qu'on a souvent des objectifs contradictoires entre ce qu'on demande aux commerciaux et ce qu'on demande aux équipes commerciales. C'est... vendez plus, c'est des choses plus personnalisées, plus compliquées. Puis la production, on leur demande faites vite et faites du standard.
Oui, ou entre les gens qui stockent et les gens qui vendent. C'est-à-dire, il faut que tu vendes 10 000 pièces chaque mois. Et au niveau du stock, on leur dit il faut réduire les stocks.
Il faut du flux tendu, voilà, il faut juste attendre.
Ouais.
Et donc, en fait, normalement, quand on remonte donc les objectifs de chacun, on doit arriver à une sorte d'objectif commun, quoi. C'est remplir des voitures. Je reprends mon exemple de Blablacar. Et l'exercice qui est sympa, que j'aime bien faire, c'est en tant que manager, est-ce que tous mes objectifs, ils sont bien reliés à cette mission-là ? Donc ça, c'est un premier point. Et s'ils ne le sont pas, est-ce que c'est la mission qui est mal définie ou est-ce que c'est mes objectifs, du coup, qui sont un peu caduques ? Et transversalement aussi, voilà, est-ce que j'ai des objectifs qui sont contradictoires et du coup qui vont empêcher d'atteindre cette mission-là. Et je pense que ça permet de faire le lien entre je suis manager, j'ai une mission opérationnelle, j'ai des objectifs à atteindre, et la vision peut-être un peu plus globale qui appartient au directeur général, qui lui porte la mission, qui est globale d'entreprise.
Et justement, c'est une parfaite transition, je trouve, avec la dernière partie qui s'appelle « S'affirmer ».
Oui.
Ouais. Je sais pas justement par rapport aux évangiles, je suis moins Je ne sais pas, le Christ, c'est quelqu'un qui s'affirmait.
Ben, en fait, on a des passages où il a une pensée quand même tranchée.
Ouais.
En fait, j'ai fait ce chapitre pour deux raisons. Première raison, c'est de dire, voyons, allez, on a parlé d'amour, on a parlé de bienveillance, etc. Et puis là, j'ai des mecs qui arrivent et c'est normal, ils disent, c'est bien beau, mais ça n'existe pas dans le monde du travail, c'est une utopie et c'est pas applicable. Même si j'ai fait l'effort à chaque fois de mettre des outils, de se dire, c'est pas possible. Donc j'ai mis aussi ce chapitre-là un peu pour contrebalancer ce qu'on a pu dire.
Ouais.
Et inclure le cas que tu as pu donner précédemment, hein. C'est-à-dire que dans la vie de manager, il y a parfois des feedbacks difficiles à partager, il y a parfois des licenciements à faire, il y a parfois des positions tranchées à avoir vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses fournisseurs, vis-à-vis peut-être de ses collègues au niveau du comité de direction. Et en fait, alors, où est-ce que le Christ en parle ? Bon, il y a le fameux exemple des marchands du temple.
Oui.
Où là, effectivement, le Christ tape du poing sur la table pour dire vous avez fait de ce temple un lieu de voleurs. Donc, on a quand même des passages.
Il les chasse, hein, physiquement.
Ah, il les chasse, oui, voilà, ouais. Carrément. Hein. Mmh. Et il y a un autre passage, alors qui est plus parfois difficile à interpréter, où dit je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Et alors, quand on lit ça, on dit, bah, en fait, il appelle à la guerre. Mais en fait, il dit que, et ça, c'est, je crois que c'est très vrai, hein, c'est-à-dire que quand on essaye d'appliquer tout ce qu'on s'est dit là depuis le début, toute cette philosophie du management, en fait, c'est pas un chemin de facilité. C'est au contraire, c'est des choses qui vont bouger un petit peu les codes, qui vont bouger un petit peu les lignes. Et ça demande des fois des situations courageuses où on a parlé parfois, il y a la pression de l'entreprise pour aller faire plus de chiffres, pour aller pousser les collaborateurs. Bah, si moi, mon manager, ça dépend du niveau où on est, mais si je ne suis pas en accord avec ces principes-là, bah, ça nécessite de s'opposer, ça nécessite de s'affirmer, ça nécessite un acte de courage. Et c'est souvent, en plus sous pression, que c'est le plus difficile de maintenir ça. Et je finis avec ce point, je te redonne la parole. On a l'exemple de Saint-Pierre. Alors ça, c'est connu aussi dans l'imagerie populaire. C'est Saint-Pierre, juste avant que le Christ soit crucifié, il dit « Écoute, devant les Romains, jamais je ne te renierai. Jusqu'au bout, jusqu'à la mort, je serai à tes côtés. » Et le Christ lui dit « Écoute, ne parle pas si vite. Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. » Et effectivement, voilà, il y a il arrive, le Christ est livré, et on lui dit « Ah ben toi, tu es avec le Christ. » Et dit « Non, 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 je ne le connais pas. Non, 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 je ne le connais pas. » Et c'est vrai que quand on est sous pression, ben c'est ce qu'on a discuté auparavant, ben en fait, on voit que tous ces bons principes, tout ce qu'on croit, tout ce en quoi on croit justement, bah, peut voler en morceaux. Et c'est justement dans ces moments peut-être difficiles qu'on en reconnaît vraiment la valeur de nos convictions et puis notre volonté de tenir une ligne de management qui se veut humaine, alignée avec ce qu'on a pu dire précédemment.
Mais est-ce que finalement, c'est pas ça la clé finalement, le courage ? C'est-à-dire que moi je pense qu'une manière d'inspirer et de s'affirmer, c'est justement de faire preuve de courage, c'est-à-dire que et d'être exemplaire. Je pense que l'exemplarité, elle se trouve à cet endroit-là, c'est-à-dire que, enfin, je pense que peu de gens pourraient être inspirés et avoir envie de se mettre en quatre pour quelqu'un qui manque de courage. Et effectivement, le courage, tu l'as dit, ça peut être de pas être d'accord avec la direction quand on est d'accord, mais ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire oser dire à ses collaborateurs, mais oui, c'est pour le bien de l'entreprise qu'on fait ça, je suis d'accord avec la direction et j'appuie ce qu'elle fait, même au risque de pas être aimé, parce que un manager chercher à être aimé, c'est du court terme et ça ne mène nulle part, alors que être courageux et amener les équipes, même quand on est impopulaire, etc., du moment qu'on est juste et que être juste, c'est aussi avoir le courage d'aller jusqu'au bout de ses convictions. Hein. C'est pas juste dire des choses intelligentes et jamais se tromper, au contraire. Et finalement, je me demande si c'est pas ça la clé, si je me demande si c'est pas ça la caractéristique forte du manager aujourd'hui, c'est certainement son courage. Ce qui pourrait donner un cap à une équipe, c'est le courage du manager, de se dire mais non, je peux pas le lâcher. Le mec, il est courageux, il y croit, etc.
Oui.
Le mec, ça peut être la fille, je la respecte et elle est à sa place parce qu'elle est courageuse. Et moi aussi, et dans notre équipe, ça fait partie des valeurs, le courage.
Oui, tout à fait.
Je crois que c'est une manière peut-être plus facile pour quelqu'un qui a peur de manquer de charisme et puis d'être inspirant ou d'être marrant, etc. Bah, déjà, faites preuve de courage, vous verrez, c'est en général ça qui va mettre les gens derrière vous, quoi. Quand vous avez une mission
oui.
dans laquelle vous croyez et pour laquelle vous faites preuve de courage, bah ouais, ça aligne vachement l'équipe, moi, je trouve.
Oui, oui, oui. Et puis il faut sortir de cette idée que le manager, il doit forcément être un leader charismatique qui parle bien. Voilà, ça peut très bien être un excellent manager en étant plus introverti, plus dans l'écoute.
Carrément.
Et ce que tu dis sur le courage, moi j'avais vu, il y a quelqu'un que je suis sur LinkedIn qui s'appelle Hervé Jouffe, qui était un ancien militaire, et il nous parle de ce principe de responsabilité totale. C'est-à-dire que le manager, on l'attend aussi sur sa capacité à endosser la responsabilité. Et c'est un acte de courage aussi que de dire devant son équipe, bon voilà, on a fait une équipe, on a fait une erreur, c'est moi le premier responsable, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, et pas être celui qui va se défausser, non mais attends, c'est en fait, moi j'y suis pour rien, c'est un tel qui a fait la bêtise.
Carrément.
Et là, on faillit à son rôle de manager où on a ce titre de responsable et on doit assumer cette responsabilité.
De toute façon, quelqu'un fait une erreur dans ton équipe, tu es responsable de l'erreur de la personne. Hein, ça c'est...
Voilà. Non, mais
après,
c'est...
en un à un, tu peux discuter avec cette personne, mais en tout cas, tu assumes, tu fais partie de ton équipe. C'est Hervé Jouve.
Oui, Hervé Jouve, ouais, je pourrais te le redonner, il est très intéressant, ouais. Je pense que tu... Il a aussi eu un angle de vue qui est du coup qui sort de l'ordinaire parce que lui il applique en fait les techniques militaires qu'il a vu en tant qu'officier et il les rebascule en privé en allant coacher, conseiller des dirigeants.
Il y a beaucoup beaucoup de bons managers qui viennent de la culture militaire.
Ouais, je pense que c'est une bonne école. Ouais.
On en a reçu quelques-uns déjà et oui, puis ça vient de là le management hein, finalement. Ça vient de là. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton exhaustivité. Alors, je le dis quand même, on n'a pas du tout été exhaustif, c'est que on a évoqué chacun des chapitres, chacun des principes qui sont derrière les chapitres, mais à chaque fois dans ton livre, et ça c'est vraiment bien fait, à chaque fois, vous avez un outil ou plusieurs qui vont correspondre à chacune des valeurs ou à chacun des thèmes qui sont abordés.
Des conseils, oui.
Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce sont des choses qui sont faciles à implémenter. Et ce que je vous conseille de faire, évidemment, c'est de vous référer au livre. S'il y a des passages qui vous ont parlé ou des passages où vous vous êtes dit, tiens, c'est bizarre, j'avais jamais pensé à cet aspect-là dans ma vie de patron ou de manager. Et je ne sais pas comment je pourrais mettre en place le truc, prenez le bouquin, vous prenez le chapitre et vous allez avoir les outils qui vont bien. Mais avec Antoine, on s'est dit qu'on n'allait pas vous laisser sans aucun outil, puisque le principe, c'est quand même qu'à chaque épisode, on donne quelques outils applicables facilement après l'écoute du podcast. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs outils à proposer aux auditeurs avant qu'on se quitte, Antoine ?
Oui. Alors, le premier, mais du coup, j'ai compris que tu en avais déjà pas mal parlé dans ta chaîne, donc je vais faire vite, mais c'est un incontournable, c'est vraiment l'entretien bilatéral ou le one-to-one, donc l'entretien individuel avec son collaborateur. Cédric dit jusqu'à une fois par semaine. Moi, je recommande au moins une fois par mois parce que des fois, quand je dis une fois par mois, j'ai levé de bouclier en disant c'est pas possible. Une fois par mois, 30 minutes minimum et poser les questions suivantes. Voilà, comment tu vas ? Faire le point sur les objectifs annuels, où on en est de ces objectifs. Prendre la température par rapport au reste de l'équipe aussi. Donc voilà, comment tu te sens au niveau du reste de l'équipe. Faire du feedback. Et finir par une question un peu plus ouverte, c'est de quoi as-tu besoin pour le prochain mois ou pour atteindre tes prochains objectifs. Voilà, ça déjà, si vous avez ces cinq questions-là dans votre entretien bilatéral, ça vous permettra de balayer un panel assez large de vos compétences managériales. Et peut-être qu'il y a des fois où ça durera que 5 minutes, peut-être les premières fois, les gens, ils n'auront pas parlé. Mais croyez-moi, mon expérience et le retour aussi des managers que j'accompagne, c'est au bout de la troisième fois, quatrième fois, ah tiens, il y a des petites choses qui arrivent, des problèmes qui sortent. Et puis en fait, ça devient un outil incontournable pour piloter l'équipe.
C'est un outil hyper simple qui donne des résultats extraordinaires. Donc oui, vraiment, il ne faut pas s'en priver. Et pour ceux qui ont du mal à conceptualiser le fait qu'on puisse accorder une demi-heure par semaine à chacun de ses collaborateurs, je reviens sur ma semaine, excuse-moi, il faut quand même vous dire que sur une année, ça représente moins de 3,5 jours par an, vu de votre collaborateur. Hein. Évidemment, vous en avez plusieurs, mais quand même, si vous n'êtes pas capable de donner 3,5 jours par an à vos collaborateurs, je ne suis pas sûr que vous soyez le manager qu'ils attendaient. Mais voilà. Et l'effet que tu as sûrement observé aussi, Antoine, c'est que plus on fait ces entretiens de manière rapprochée, plus nos collaborateurs sont autonomes, puisque finalement, ils peuvent refaire un point avec nous régulièrement, moins du coup, ils nous interrompent. Et du coup, en fait, on croit perdre du temps en donnant cette demi-heure, et en fait, on investit du temps, parce que cette demi-heure que vous donnez, mais vous la récupérez au centuple. Vous avez une équipe qui se développe, qui devient autonome, des gens qui s'entendent mieux entre eux, parce que le fait de parler avec chacun, bah, ça vous permet quand même de gérer la partie relationnelle, même si c'est du bilatéral, comme vous le faites avec tous vos collaborateurs. Enfin, je veux dire, c'est tellement riche que vraiment, il ne faut pas se priver de ce truc-là, quoi.
Mmh. Et il y a un point que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est un dirigeant qui m'a parlé de ça. Donc, il ne mettait pas en place ses entretiens bilatéraux. Pardon. Et en fait, quand il voulait parler à quelqu'un, il disait, tiens, Sonia ou Michael, tu peux venir voir dans le bureau. Et en fait, ça créait une ambiance
horrible,
bah, un peu de gossip, quoi. Enfin, voilà, du commérage. Tiens, il va se faire augmenter, ah, c'est le nouveau poste, etc.
Oui, et, ou ça fait paniquer le collaborateur.
Exactement. Mince, je suis convoqué avec mon manager, parce que peut-être en effet, on a des choses à dire.
C'est un recadrage.
Peu importe. Et en fait, le fait d'avoir mis ces entretiens bilatéraux, ça a coupé tout ça. C'est-à-dire que le fait de voir son manager en face à face dans son bureau, c'est devenu une chose normale. Et puis effectivement, 90% du temps, bah, on va dire des choses positives, des félicitations, etc. Mais quand on a à faire un recadrage, bah, on n'a pas ce côté malsain qu'il peut y avoir dans le bureau et ça se fait naturellement via cet entretien.
Puis aussi, ça a une autre vertu. C'est que déjà, ça équilibre le temps que vous passez avec chacun de vos collaborateurs, parce que le truc de la machine à café, c'est très bien, mais moi, quand je regarde, souvent, il y a 2-3 collaborateurs, en fait, on leur parle jamais à la machine à café. Donc, le manager a l'impression de faire du management, mais il fait pas du management, puisque le management, ça se fait avec chacune des personnes dont vous êtes responsable. Et puis, c'est pas du tout la même chose de dire à quelqu'un, non, mais si t'as un problème, on se verra, ou bien, ah, t'as un problème, attends, on se voit entre deux portes, etc. Donc là, vous lui donnez un quart d'heure entre deux portes un peu pourri, et de lui dire, je m'engage à passer une demi-heure avec toi chaque semaine que notre relation durera. Vous vous engagez, quoi. C'est pas la même chose que de dire, ouais, bon, ok, on peut se voir rapidement, j'ai pas trop le temps, etc. C'est pas du tout la même démarche. Et quand vous faites ça, vous faites un énorme cadeau à vos collaborateurs. C'est un peu vous vendez le temps à l'avance. Un engagement, c'est ça, c'est dit je te donne un crédit de temps avec moi, tu vois, tu vas pouvoir avoir une relation avec moi, c'est hyper important. Bref, moi je pourrais faire, on pourrait refaire
tout
une
à fait d'accord.
D'ailleurs, on l'a
donc ça, c'était le premier outil. Le deuxième, ah oui, bon, j'en partage 3 si tu veux, et puis
super.
Le deuxième, alors c'est ce que j'appelle la balance entre effort récompense. Alors, c'est quelque chose que j'ai mis en place avec un collègue manager. Donc, il avait un peu une problématique de motivation de ses équipes. Il cherchait un moyen de concrètement outiller ses collaborateurs pour pouvoir voir où est-ce qu'il peut agir pour regagner de la motivation. Et je lui ai dit, écoute, tu vas faire une balance et tu vas leur demander de mettre d'un côté tout ce que il retire de bénéfices l'entreprise. Alors bon, bah, il y a bien sûr le salaire, mais aussi le côté socialisation, les compétences peut-être qu'ils peuvent retirer, l'aspect réseau, la ligne sur le CV qui fait bien. Enfin voilà, tout un tas, il y a tout un tas de choses qu'on reçoit de l'entreprise par le salaire, pas par le travail qu'on effectue. Donc ça, c'est de mettre d'un côté. Et puis de mettre de l'autre côté tout ce qui nous pèse, tout ce qu'au contraire, tous les efforts qu'on va faire. Donc ça peut être effectivement déjà le temps de travail, ça peut être la collègue qu'on doit supporter parce qu'on ne l'aime pas, ça peut être l'outil informatique qui bug et qui nous énerve. Et donc ça vient de l'autre côté dans la balance. Okay. Et je me souviens, on avait fait ça avec différents poids. Alors voilà, il y avait des poids qui valaient 3 points, des poids qui valaient 2 points et des poids qui valaient 1 point. Et on plaçait ça dans la balance. Puis après, on regardait si c'était équilibré. Et donc, bon, bah, si c'est pour pas équilibré, bon, ça va bien. Par contre, voilà. S'il y a un gros écart de poids, bah, ça nous permet de nous dire sur la partie effort, qu'est-ce que je peux réduire? Quels sont les poids que je peux réduire? Donc, améliorer l'outil informatique, changer le binôme de travail. Et de l'autre côté, parfois, bah, où est-ce que je peux améliorer au niveau de ce que donne l'entreprise? Alors, ça peut être parfois une augmentation, mais voilà. Il faut vraiment voir les deux aspects. Parce qu'il y a des managers, je pense, dans le public, ils ne peuvent pas jouer sur cet aspect-là. Et donc, c'est peut-être plutôt de l'autre côté, au niveau des efforts, qu'ils peuvent essayer de réguler.
Super. Super outil. Je ne connaissais pas du tout.
Voilà, c'est pas que...
Merci pour ça. Ouais.
Qui tu pourras voir aussi dans le détail dans le livre. Mmh. Et puis après, et le dernier, c'est bon, la matrice de compétences. Ça, j'aime bien utiliser cet outil-là. C'est assez simple et en même temps, il faut réussir à le mettre en place. L'idée, c'est de cartographier à un instant T quelles sont les compétences de vos collaborateurs et surtout le niveau d'autonomie par rapport aux tâches que vous leur demandez. Donc, imaginons, je passe en équipe communication, est-ce que je suis capable d'utiliser Photoshop? Est-ce que je peux faire du montage vidéo? Est-ce que je peux publier sur réseau LinkedIn? Est-ce que je suis capable de faire newsletter? Donc ça, c'est les compétences que j'attends de mes collaborateurs. Et ensuite, je vais aller évaluer sur une échelle de 1 à 4 le niveau d'autonomie. Donc, le niveau 1, c'est, bon, bah, tu sais pas faire, il faut que je te donne les consignes, il faut que je te donne la recette très précise pour que tu puisses réaliser. Le niveau 2, ok, tu as déjà une première prise en main, mais tu as besoin d'entraînement pour être efficace et rapide. Donc, tu es capable de faire, mais tu n'es pas encore ultra productif pour le faire bien et vite, tel que dans le temps que je te demande. Niveau 3, tu sais faire, et éventuellement sur des cas un peu complexes qui sortent de l'ordinaire, tu as encore besoin d'aide. Et niveau 4, tu gères totalement. Tu es expert et tu prends l'initiative. Si jamais ça sort du cadre, tu es capable de résoudre. Tu es même force de proposition sur le process. Quoi. C'est-à-dire que potentiellement, tu es le meilleur dans l'équipe sur ce sujet. Donc, cette petite matrice, donc, on cartographie les compétences, on évalue le niveau d'autonomie de ses collaborateurs en colonne. Ça permet de voir déjà une cartographie des compétences qu'on a au niveau de l'équipe et voir parfois les trous dans la raquette. Moi, quand je fais ça, des fois, je dis, bah, regardez, là, sur cette compétence montage vidéo, vous n'avez que Isabelle qui sait faire ça. Donc, le jour où Isabelle part ou Isabelle est en arrêt maladie, par exemple, bah, vous n'avez plus personne pour la compétence. Donc, ça permet de former des binômes. Et ensuite, bah, ça, moi, je m'en sers pour les managers pour qu'ils créent un plan. Hein, dire, bon, bah, aujourd'hui, c'est votre cartographie, c'est votre matrice à l'instant T. Moi, dans 6 mois, c'est quoi le niveau de compétence que vous attendez de vos collaborateurs? Et d'ailleurs, on travaille sur bah, qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on les envoie en formation? Est-ce qu'on passe du temps en binôme à former un tel sur tel sujet?
Oui, et puis tu peux faire des échanges. C'est-à-dire, l'expert en montage peut former la personne qui est forte sur le son et celle du son, enfin bref, ça peut enrichir beaucoup chacun.
Exactement. Et ça, c'est très utilisé dans l'industrie, moins dans le tertiaire, entre guillemets, mais c'est un outil qui me paraît tout à fait pertinent et à chaque fois que j'ai présenté, ça a été très apprécié, notamment pour le recrutement. C'est-à-dire, dans le recrutement, j'ai quelqu'un qui arrive avec tel niveau de compétence à un instant T, je veux l'amener à tel niveau d'autonomie dans 6 mois, dans 1 an, et on fait le plan ensemble et on vérifie que les objectifs sont atteints.
Top, super. Ouais, nous, on a mis ça en place dans le cadre aussi de la qualité, puisque notre processus RH, il était audité et il y avait besoin de ça. Quoi. Ok.
Parfait.
Bah, super, Antoine. Écoute, merci infiniment. J'ai trouvé ça ultra intéressant et rafraîchissant. Je suis rassuré, ce livre, mais j'étais déjà rassuré, hein, n'est pas l'œuvre d'un illuminé déconnecté, bien au contraire.
je le prends positivement.
oui, il faut, hein, c'est positif. Et on mettra dans le descriptif du podcast toutes les informations pour aller vers le livre. Et puis peut-être aussi pour te contacter, tu es sur LinkedIn, bien sûr.
Oui, bah je poste 3 fois par semaine, donc deux fois, on va dire, sur du management plus général, et une fois plus en lien avec le livre, donc où je vais commenter un verset d'évangile, justement.
Ah, ok, génial.
Puis le mettre en lien avec le thème du management.
Très, très bien. En tout cas, merci, c'est une approche vraiment originale et utile, surtout.
Ouais, non, mais merci beaucoup à toi aussi, Cédric. Je me permets de le faire aussi en conclusion. Okay. Qu'on a eu des échanges de qualité. T'as pu bien rebondir et enrichir nos discussions avec des exemples que t'as vécu. Donc, c'était très sympa.
Ça marche. Merci. Depuis que j'en parle, on a de plus en plus d'avis 5 étoiles et de commentaires positifs sur les applis de podcast. C'est génial, ça nous fait remonter dans les rankings, ça fait que de plus en plus de personnes écoutent notre message, et puis en plus, évidemment, ça nous fait hyper plaisir. Donc, continuez, si c'est pas encore fait, laisse un avis positif, donne-nous un avis 5 étoiles sur ton appli de podcast, ça fait super plaisir, et c'est bien pour tout le monde. Merci beaucoup.